Toujours à l'écoute du réseau FM+, le 91 MHz, si vous êtes sur l'agglomération Montpellier-Rennes, Radio FM+, ou bien sur le 103.1 Radio Alliance+, sur l'agglomération nîmoise, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, toujours avec Michel Théron, et nous abordons donc le chapitre « L'image modèle ». Et nous avons terminé par cette citation de l'évangile selon Philippe, « Un gentil ne meurt pas, car il n'a jamais vécu pour pouvoir mourir ». Celui qui a cru en la vérité a vécu, et lui, il court le danger de mourir, car il vit.
Ah, c'est remarquable, hein. C'est une pensée absolument remarquable, hein. Bon, celui qui est aveuglé à la vie, bon, à la vie spirituelle, celui-là ne peut pas mourir spirituellement. Mais celui qui a connu, justement, l'essence spirituelle de la vie, celui-là est en danger de mourir.
On pourrait mettre en parallèle avec une des citations de Jésus, celui qui donne sa vie, c'est à peu près la même chose, hein. C'est parce que celui qui se recroqueville sur sa vie, en fait, ne vit pas.
Hein,
c'est un peu comme Harpagon sur sa cassette, complètement crispé sur son trésor. Là où tu mets ton cœur, là tu mets ton trésor, on pourrait dire.
Oui, oui, Harpagon, Harpazein en grec, c'est effectivement retenir les choses, crisper, être crispé, vous avez raison. Hein. Mais alors mourir pour Jésus, il faut le prendre symboliquement.
Oui, hein. Oui.
Bon, que si le grain ne meurt, il ne porte pas de fruits, etc. Hein. Donc il faut mourir au petit égo qu'il y a en soi, pour s'ouvrir à l'éventail infini des postures de la vie. Hein. Donc, il y a « meurt et devient », hein, cette phrase très connue, qui est pratiquée en maçonnerie, je crois qu'elle est de Goethe, hein, « meurt et devient », elle est pratiquée dans la franc-maçonnerie, cela veut dire qu'il faut s'arracher au petit moi pour accéder à une vie beaucoup plus large, beaucoup plus importante. Mais vous voyez, sur cette essence opposée à l'accident, eh bien, on pourrait multiplier les exemples. Par exemple, si je dis Paris sera toujours Paris, hein, ça veut dire la ville que je vois actuellement. Vous qui allez souvent à Paris, Redouane, hein, vous devez le dire en arrivant à la gare de Lyon, hein, Paris sera toujours Paris, hein. Vous voyez le Paris terne et gris souvent quand il pleut, hein, par exemple, avec ces gens qui se précipitent, qui courent, tout le monde de cours à Paris, hein, bon, le provincial, lui, il est lent comme un escargot, hein, quand il descend sur le quai. Alors ça, c'est le Paris réel que vous voyez, mais vous pensez à la ville lumière, vous pensez à la tour Eiffel, etc. Et alors, donc, le Paris que vous voyez, justement, est confronté au Paris idéal. Lorsque Dubellé a visité Rome, il nous dit dans les regrets que Rome n'est plus dans Rome. Hein. Ça veut dire que dans la Rome qu'il voit, hein, qui est en briques, hein, il y a la Rome en marbre qu'il a imaginée, vous voyez. Donc la Rome idéale n'est pas dans la Rome que je vois, vous voyez. Hein. Donc dans les deux cas, Paris sera toujours Paris, Rome n'est plus dans Rome, on confronte deux plans de la réalité. Et donc, je répète que ce qu'est l'antanaclase que j'ai déjà analysé, c'est le fait de confronter justement une essence et un accident et de faire miroiter dans le langage les deux plans. Et c'est le phénomène psychospirituel essentiel ou l'utropisme stylistique majeur de tout l'évangile selon Thomas. Alors on peut penser à Platon, par exemple, et à sa vision des deux mondes. Hein. Il y a pour Platon un monde essentiel ou archétypal, c'est le monde des idées, des essences, hein, et un monde factice, dégradé, le monde des apparences, hein, qui nous donnent une idée du premier, mais qui sont loin de l'épuiser. Ce monde des apparences, le monde des phénomènes, ta phainomena, ce qui apparaît, c'est un monde factice, hein, et qui nous donne une idée de l'essence. L'essence en grec, c'est ousia. Hein. Donc, phainomenon, le phénomène, donne une idée de l'ousia, donne une idée de l'essence. Hein. Mais en fait, ce monde, c'est un monde factice qui est fait simplement d'ombre portée. Vous avez entendu parler, Redouane, bien sûr, de l'allégorie de la caverne qui se trouve au livre 6 de la République de Platon. Platon nous dit que nous sommes comme des spectateurs dans une caverne et nous voyons devant nous les ombres qui s'agitent, hein, des ombres qui s'agitent. Mais la lumière est derrière nous. Donc ce que nous voyons n'est que ombre. Certains y voient justement une préfiguration du cinéma, si vous voulez, hein, dans l'allégorie de la caverne. Donc nous ne voyons pas le réel, hein. Valérie cite ce thème dans Le cimetière marin. Et vous, grande dame, espérez-vous un songe qui n'aura plus ses couleurs de mensonge qu'aux yeux de chair l'onde et l'or font ici, voyez, hein. Donc, pour Platon, le monde que nous voyons nous donne l'idée de ce qu'il pourrait être, mais c'est un monde mensonger, vous voyez, un monde qui n'est pas réel. Et là, je pense à Paul aussi, dans la première épître aux Corinthiens, je crois, il dit la figure de ce monde passe, hein, par archétai to schema tu cosmou tutu, la figure de ce monde passe, c'est-à-dire ce monde, c'est un monde qui n'est pas réel, si vous voulez, c'est un monde qui est voué à la disparition. Alors évidemment, dans l'idée de Paul, et ça, Redouane, vous le savez très bien, bien sûr, c'est parce que la parousie, la venue du Seigneur est très proche, donc il faut user du monde comme si on n'en usait pas, vous voyez, hein. Bon, bien sûr, nous pouvons laisser de côté cette venue du Seigneur, imminente, hein, pour Paul, mais nous pouvons dire que la figure du monde, justement, ne nous livre pas l'essentiel. Alors, c'est dans ce sens qu'il faut prendre l'image modèle, hein, selon l'évangile, selon Thomas. C'est l'image idée, ou l'idée, voilà, pour reprendre un terme de Platon, hein, l'image idée ou idéale qui est présente en nous quand nous parlons et quand nous donnons au langage toute sa valeur pleine, ontologique, et qui est le modèle de notre vie, qui modèle notre vie. C'est dans ces deux sens, justement, qu'il faut prendre l'image modèle. Elle est le modèle et elle nous modèle. Nous devons nous façonner à l'image de ce que nous sommes vraiment. Nous devons lui correspondre. Alors, nous ne sommes pas en effet ce que nous sommes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas qui je suis. Nous ne sommes pas ce que nous sommes. C'est-à-dire, nous ne sommes pas la plupart du temps ce que nous sommes vraiment essentiellement. D'ailleurs, je crois que ça se dit, Redouane, quand nous ne reconnaissons pas quelqu'un tel que nous l'imaginons, nous lui disons « tu n'es pas toi-même ». Voilà, hein, « tu n'es pas toi-même ». Pourtant, il est lui-même, mais nous disons « tu n'es pas toi-même ». Finalement, nous sommes réellement ce que nous sommes essentiellement lors de certains moments magiques de reconnaissance. Et c'est le sens de la formule « l'homme passe infiniment l'homme ». C'est une formule de Pascal, je crois, dont la présentation antanaclastique définit toute la transcendance, c'est-à-dire qu'il y a dans l'homme quelque chose qui, comment dire, est plus grand que lui. Alors je pense aussi à la formule de Nietzsche, « deviens ce que tu es », qui n'est pas compréhensible si on ne fait pas mentalement le changement de plan que j'ai signalé. Ce que tu es veut dire ce que tu es essentiellement, hein. Et c'est comme cela qu'il faut comprendre la formule « se connaître », qui est propre à tout l'évangile selon Thomas dans plusieurs logias, par exemple le 3, le 67, le 111, etc. Donc c'est connaître son modèle essentiel qui préexiste à toute manifestation existentielle. Et tout cela peut être résumé dans ce que dit le logion 84, que je peux répéter maintenant, hein. Jésus a dit, les jours où vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez, mais lorsque vous verrez vos modèles, c'est-à-dire lorsque vous serez en adéquation avec votre essence profonde, ces modèles qui au commencement étaient en vous, qui ne meurent ni ne se manifestent, qu'est-ce que vous supporterez? Alors, pour certains traduisent modèle, Philippe de Suarez par exemple, mais la Pléiade traduit image. Eh bien, en fait, le mot grec copte, hein, c'est-à-dire un mot dans le texte copte tiré du grec, c'est icon, qui signifie image. Icon a donné icône. Hein. Bon, icône, ce n'est pas n'importe quelle image, mais seulement l'image modèle. Hein. Et l'icône, alors attention, c'est ne dites pas que c'est une petite image sur un écran d'ordinateur. Hein. Ça nous vient l'icône de l'anglo-américain, si vous voulez. Hein. Voilà. Non, l'icône, c'est l'image sacrée du christianisme orthodoxe. Et c'est bien une image modèle, puisqu'elle est normative, et finalement, elle est empreinte d'une certaine abstraction, elle n'est pas ressemblante, elle ignore le réalisme ou le naturalisme, hein, dans le monde chrétien orthodoxe. L'image ressemblante, elle est tout autre, c'est celle que nos yeux de chair voient. Thank you.
toujours à l'écoute du réseau FM+, des mots pour le dire, une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, avec Michel Théron, et nous abordons la troisième partie de notre émission, et j'allais dire, voilà, la troisième partie, c'est bas les masques.
Hein,
c'est un peu qu'on dit, c'est qui suis-je, et c'est se regarder un peu, hein, on vous l'avait déjà dit une fois, c'est se voir à l'intérieur de soi-même, en fait, être face à soi-même.
Il y a deux images. Il y a l'image ressemblante, qui est celle que nos yeux de chair voient. Hein. Par exemple, lorsque nous nous regardons dans la glace le matin après être levés, nous avons les yeux bouffis de sommeil, nous sommes pas rasés, etc. Bon, ça ne nous donne pas une haute idée de nous-mêmes, si vous voulez. Ça, c'est l'image ressemblante. Et puis, l'image modèle, c'est celle que notre esprit projette sur ce qu'il voit, pour le comparer, ce qu'il voit, avec ce dont il peut avoir l'idée. Alors on peut dire, je ne suis pas ce que je vois, je ne suis pas cela. Bon, maintenant, il y a des gens superficiels quand même, Redouane, hein, et d'ailleurs, l'évangile selon Thomas le dit, au verset 3 du Logion précédent, hein, les jours où vous voyez à qui vous ressemblez, vous vous réjouissez. Hein. Alors, il y a des gens qui aiment se voir dans la glace, malgré ce que je viens de dire un instant, et c'est le règne du narcissisme. Hein. Ah, je ris de me voir si belle en ce miroir. Hein. Et c'est aussi ce que nous dit le miroir qui nous est tendu par la publicité. Ce corps dont vous rêvez, c'est le vôtre, soyez vous-même, chouchoutez-vous, parce que je le vaux bien, tel produit qui vous ressemble, etc. Alors, ça, ce sont des gens superficiels, des gens qui aiment se regarder dans la glace. Les enfants aiment se regarder dans la glace, ils se font des grimaces, ils se posent pas toute cette question du décalage entre l'essence et l'accident. Hein. Mais beaucoup encore, justement, pensent que ce qu'ils voient juste est gratifiant à leurs yeux. Mais je me demande si on peut s'aimer dans la seule contemplation de soi, lorsqu'on laisse de côté toute exigence d'autre que soi, de ce que l'on est vraiment, toute apparence ou ressemblance exclue. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Redouane. Vous savez, il y a une formule qui me fait toujours rire. Ça me fait penser à la devise de certains restaurants. Parfois on lit, ici on mange comme chez soi. Bon, mais si on mange, si c'est pour y manger comme chez soi, c'est pas la peine d'aller au restaurant, vous voyez. Bon, donc si ce que l'on voit dans la glace finalement c'est...
Il manquerait plus qu'on fasse la vaisselle aussi.
Ah oui, tout à fait, tout à fait. Donc si ce que l'on voit dans la glace finalement c'est nous-mêmes, et si on y trouve plaisir, je trouve qu'on n'est pas très difficile, vous voyez, très difficile, voilà. Il y a des adultes qui sont encore enfants et qui aiment se regarder de façon narcissique dans le miroir, mais pour d'autres, eh bien, le miroir est plutôt accusateur que flatteur. Alors, sur l'opposition image, l'image modèle et la ressemblance, eh bien, l'évangile selon Thomas dialogue avec la Bible dans la version des Septante. En effet, dans cette version figure déjà l'opposition entre eikon, l'image, et la ressemblance, qui est en grec homoiosis, à propos de la création de l'homme par Dieu. Voici ce que dit Genèse, chapitre 1, verset 26, hein, dans la version de la Septante. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. Dans la Septante, vous avez kataikona, et à notre ressemblance. Dans la Septante, vous avez katomoyosine. Alors, la plupart des commentateurs disent que la ressemblance ici, qui est mise en forme de repentir ou de restriction, modère l'image et exclut la parité entre Dieu et l'homme. Et c'est vrai que on sent bien ici que la ressemblance est en retrait par rapport à l'image, exactement comme dans le Logion de l'Évangile selon Thomas. Or, on dit toujours l'homme est fait à l'image de Dieu et on oublie toujours la ressemblance, Redouane. Je ne sais pas pourquoi, hein, parce que c'est plus facile, ça fait plus slogan, etc. Mais la ressemblance, c'est pas pareil que l'image modèle, vous voyez. Il y a dans l'homme quelque chose qui fait penser à Dieu, mais l'homme n'est pas totalement théomorphe, c'est-à-dire à l'image de Dieu. Hein. On l'oublie cette ressemblance, je ne sais pas. Remarquez que l'expression « l'homme a été créé à l'image de Dieu hein, » a deux sens. Hein. Dieu peut être le modèle à partir duquel l'homme a été façonné et l'objet du façonnement, ensuite de quoi il y a dans l'homme une part de divin, hein, donc c'est un génitif objectif, l'image de Dieu, Mais d'autres, comme Rashi, par exemple, qui est un commentateur de la Bible juive du XIIe siècle, je crois, il vivait à Troyes, pensait que l'expression signifiait que Dieu avait créé l'homme, non pas en se prenant lui-même pour modèle, mais selon l'image ou l'imagination qu'il s'en faisait. Et dans ce cas-là, ça serait un génitif subjectif. Vous savez que génitif a deux sens. Par exemple, l'amour de mon père, ça peut être l'amour que j'ai pour mon père, donc le père est l'objet de mon amour, ou l'amour que mon père éprouve pour moi, le père est le sujet du verbe aimer, vous voyez. Donc voilà. Alors l'image de Dieu, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Dieu est l'objet du façonnement, ou est-ce que c'est Dieu a eu la fantaisie de nous faire comme ça, vous voyez, hein? Évidemment, l'interprétation de Rashi, qui augmente la transcendance de Dieu, et n'est pas celle de l'évangile selon Thomas, qui est, de ce point de vue, immanentiste, hein. Alors, je crois quand même que ces modèles, ce qui est important pour eux, c'est qu'ils étaient, ils échappent au temps. Ces modèles qui au commencement étaient en vous, ou qui furent avant vous, selon la traduction de la Pléiade. Ils ne meurent ni ne se manifestent, dit le texte. En somme, comme je l'ai dit, ces modèles relèvent de l'essence, ousia, et non de l'apparence manifestée, du phainoménon. Et donc, elles se saisissent, ces images modèles, par la réminiscence, comparable à ce que Platon appelle l'anamnésis. Anamnésis, ça a donné anamnèse, c'est un mot encore savant, mais qui signifie simplement ressouvenance, souvenir, hein. Et c'est dans cette lumière éternitaire qu'on peut comprendre le Logion 18, par exemple, dans ses versets 8 à 10, je l'ai dit, « Heureux celui qui se tiendra dans le commencement, et il connaîtra la fin, et il ne goûtera pas de la mort. » Hein. Alors, on sait que pour les gnostiques, le temps était un principe d'entropie, c'est-à-dire de refroidissement, de dissipation de l'énergie dans un système clos. L'entropie, c'est le deuxième principe de la thermodynamique de Carnot-Clausius, qui nous dit que dans un système clos, l'énergie va se dissiper. Donc, finalement, il y a une espèce de dégradation, de refroidissement, vous voyez. Bon, eh bien, le temps est conçu comme cela. Et pour eux, pour les gnostiques, le temps est une sorte de viol de l'éternité essentielle qui est connue avant même que ne commence le processus de création. Puisque la création, à certains égards, pour la gnose, est une catastrophe, hein. Et je pense quand même, moi, que cette idée, même si elle surprend, n'est pas sotte, hein, et la liturgie chrétienne a elle-même repris cette idée, au moins la liturgie catholique, dans une admirable formule. Je rappelle que je suis d'origine catholique, hein, et que si je me sens si bien en monde protestant maintenant, c'est parce que j'ai évolué, hein. Mais dans mon enfance, il y a une admirable formule que je ne peux me remémorer sans émotion, et dont je ferai volontiers mon mantra personnel pour conjurer ce temps qui, toujours comme Chronos ou comme Saturne dévore ses propres enfants. Voici cette formule, je la dis en latin, j'ai écouté autrefois la liturgie en latin, hein. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum, amen. Ça veut dire, comme au début, maintenant et à jamais, pour les siècles des siècles, ainsi soit-il, vous voyez. Donc, je me dis personnellement que ce modèle, je l'ai eu dès le commencement, hein, et j'aimerais toujours, non peut-être pas y adhérer complètement, mais m'en approcher à chaque instant de ma vie maintenant. Alors, cette formule, vous savez, il y a une, c'est important l'enfance, hein, l'enfant, disait Wordsworth, bret anglais, c'est le père de l'homme. Ce qu'on a entendu dans l'enfance nous marque pour toujours, hein. Donc, que ce que j'ai entrevu autrefois me soit toujours donné, et je dirais amen. Alors, je ne sais pas, Redouane, on pourrait peut-être conclure les émissions toujours par ce fameux amen.
Ça peut être une idée.
Ainsi soit-il, ainsi soit-il. Voilà. Bon, pour la suite du Logion, je pense qu'il faut traduire comme Philippe de Suarez, quand vous verrez vos modèles, qu'est-ce que vous supporterez, hein? C'est une exclamation encourageante. La version de la Pléiade, combien vous aurez à supporter, a une tonalité plus menaçante. Mais il y a deux sens, hein. Quand on voit ce que l'on est vraiment, quand on laisse de côté toute facticité, on est à la fois ébloui et accablé. Ébloui par ce que l'on entrevoit en tant que possibilité d'être, et accablé parce qu'en même temps on voit à côté de ce à quoi on aspire, ce à quoi encore on ressemble, et le miroir ne flatte plus notre narcissisme. Comme tout à l'heure, car l'adulte maintenant a mûri, le miroir nous institue certes en tant que susceptible d'évolution, mais nous juge et condamne irrémédiablement ce qui subsiste en nous de dégradation. Alors il y a un poème de Baudelaire que j'aime beaucoup, dont voici deux vers, hein. « Ah Seigneur, donnez-moi la force et le courage de contempler mon cœur et mon corps sans dégoût. » Alors, je ne sais pas, moi, je crois que le miroir instituant peut parfois nous encourager et peut parfois, au contraire, nous montrer l'infinie distance qu'il y a entre ce à quoi nous aspirons et ce que nous sommes. Lamartine disait « Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un dieu tombé qui se souvient des cieux ». C'est beau ça, hein, un dieu tombé. Donc nous avons en nous l'anamnèse des semences, mais nous ne sommes pas toujours au niveau de ce que nous voudrions être, hein, il me semble.
Oui, être et paraître, ce sont deux choses différentes.
Ah voilà, hein. tout à fait. Hein. Paraître aux yeux des autres, nous faisons illusion, bien sûr. Mais aux yeux de nous-mêmes, nous ne pouvons pas nous tromper nous-mêmes. Hein. Le miroir ne nous acquitte de rien.
Une voix nommée Jésus, l'évangile selon Thomas, vous voyez, il y a des ouvertures d'esprit, et comme on le disait, la seule obligation que nous avons, c'est de faire penser. Si jamais vous souhaitez réagir à notre émission, n'hésitez pas, soit par mail, soit par l'adresse directement, par courrier, il suffit de se diriger vers notre site internet, et vous trouverez toutes les indications nécessaires, même pour le podcast, pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route. On se donne rendez-vous la semaine prochaine et en espérant vous retrouver tel que vous êtes. Et entre-temps, portez-vous bien.
Ouais, et aussi tel que vous pouvez être dans le plus profond de vos aspirations aussi.
Merci, au revoir Michel.
Au revoir à tous.